Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h07, de retour dans les grandes gueules du sport, votre émission le samedi, le dimanche, 9h midi. J'ai dit quoi, 10h07? Non, évidemment, 11h07, les copains. Rassurez-vous, vous n'êtes pas en retard pour emmener les enfants faire des activités. Il est 11h07 et on est très heureux d'être avec vous, comme tous les week-ends. Alors, sachez qu'on a évoqué beaucoup de choses hein, déjà depuis ce matin. Est-ce que trop de foot, ça tue le foot? Christophe Cessieux qui a fait son coup de gueule contre World Rugby. Il y a eu ce 8-0 de Nice face à Saint-Etienne. Il y a eu le cas Adrien Rabiot. Est-ce qu'un sportif peut vraiment faire ce qu'il veut de sa carrière? Bref, beaucoup de débats. Allez réécouter tout ça parce que ça a chauffé dans le studio des grandes gueules du sport. Mais aussi, à 11h45, c'est votre moment, les auditeurs. Vous aussi, vous êtes des grandes gueules. Vous venez directement interpeller une GG sur un thème du jour. Vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un?
Allez.
Eh bien, ne vous réfugiez pas comme ça derrière votre clavier d'ordinateur. Vous composez le 32-16 et vous venez lui dire en face. Hein, c'est facile d'affronter David Douillet à 400-500 km d'écart. Pareil pour Fabrice.
La preuve, tu l'as fait.
Ben oui, parce que c'est simple comme
tu
ça.
Tu l'as moins fait
loin.
Pendant les Jeux, je trouvais, hein, quand même. Hein.
Pendant les Jeux, ouais, oui, mais j'entendais son souffle chaud sur ma nuque. Évidemment, je faisais attention.
Le souffle chaud sur ta nuque, fais attention.
Avec David, on est très proches.
Je vois ça,
mais très très.
Mais il préférait aller dormir chez toi quand même. Ça a pas changé.
Mais David, tu viens dormir à la maison quand tu veux, évidemment. Tu le sais.
Bien sûr. Ne t'inquiète pas.
Donc le 32-16, chers auditeurs, à 11h30, le débat caché, les GG ne savent rien pour l'instant et pourtant elles vont devoir débattre. Alors c'est quoi votre idée du débat caché, mes GG? Quelle est votre sensation d'après vous, ouais. Sur quel sujet je vais vous interroger, Christophe?
J'ai une idée, moi. Ouais. En fait, est-ce que la crise de la soixantaine, ce serait pas plutôt Marc Lavoine qui essaye d'embrasser sa fiancée Adriana Carambeau? Est-ce que c'est pas ça la crise de la soixantaine pour vous? C'est pas mal comme débat, non?
Alors c'est
si vous n'avez pas
ça,
vu ces images.
Je trouve que c'est un très bon débat.
Bonbon.
Mais dans les grandes gueules du sport, je vais avoir du mal à le justifier auprès de la direction. Ah. Mais c'est un très bon débat. On embrasse évidemment Marc Lavoine et Adriana. Enfin, lui embrasse évidemment.
Ah, ça oui. À la moyenne de mon vie, quand même.
Non, c'est pas vrai. Allez voir ça sur les réseaux sociaux si ça vous fait marrer. Bon, non, c'est pas ça. Mais,
c'est ça.
Mais je reconnais que tu m'as un peu. On pourrait faire un autre débat plutôt que le sport, je suis d'accord.
Bah
avec
oui,
toi.
Mais tu sais quoi? On devrait tous les samedis, tous les dimanches, faire un pas de côté, un débat qui n'a pas. Qui
et on appellerait ça
sport.
Les grandes gueules, tout simplement.
Ouais.
Bonne idée. Je vais proposer ça à la direction
Olivier.
Aussi. Tu sais, non, bien sûr, j'ai entendu ça. Marie, c'est quoi?
Moi, je pense que tu n'as pas pu passer à côté du fait que Wout Van Aert a signé à vie avec la Jumbo. Ou éventuellement Chloé Covell qui vient de gagner les X-Games Japon en street, en skate, qui a juste 14 ans et qui fait ça juste après Arisa Trou qui a elle-même gagné le parc au JO en skate et qui
très
a
bien.
14 ans.
Ah ouais.
Et je me dis, mais ces filles sont juste oui. Dinguissimes quand tu sais la complexité. Donc voilà un truc autour de ça.
Et puis j'adore parce que tu me dis, je vois pas comment tu as pu passer à côté de ça. Rassure-toi, je suis totalement passé à côté de ces deux informations. Mais merci Marie pour ta proposition.
C'est plus un pas de côté, laisse un pas dans le vide là qu'on fait là.
David Douillet. C'est quoi le débat caché?
On va parler de foot, tiens.
Oh non!
J'avais
trop de foot,
aussi.
Tu le fous, David.
C'est quoi, David?
Non, mais là, vous savez tous qu'il y a l'élection à la tête de la FFF au mois de décembre. Vous le savez, ça?
Ouais, bien sûr.
Et comme par hasard, un des concurrents qui s'était plus ou moins positionné, qui est le président de l'Île-de-France, Saint-Jacques, il a dit là qu'il briguera pas, il ira pas au fight avec Philippe Diallo. Voilà. Donc, ce qui m'inquiète, c'est que il y a rien, il y a pas de liste, il y a rien, il y a juste. Alors, est-ce que la FFF est devenue une république bananière ou pas? Voilà, c'est ma question.
Ok, c'est la proposition de David, mon cher Fred.
Je pense ici que tu es allé dans le moins complexe. Tu veux qu'on réagisse sur l'instant, sur l'instinct, sur la réactivité par rapport à l'information. Michel Platini a proposé de jouer au football à 10. Pourquoi ne pas en parler, voir ce que ça pourrait donner.
Ouais, c'était cette semaine sur RMC dans Rotten sans flamme. Pourquoi pas? Merci pour vos propositions.
Dis donc, avec ces propositions, on va s'ennuyer, je vous le dis, moi.
11h30, évidemment, faites-moi confiance. Mario Claudio.
Et Bougon.
Mario Claudio a dit un jour, on ne peut pas survivre sans s'inventer.
Allez,
RMC. Les grandes gueules du sport passent la seconde.
Ne m'oublie pas.
C'est fou, ce retour de l'équipe de France. C'est fait. Ont égalisé à la dernière seconde. Elles sont allées la chercher en prolongation.
Ça ne dure que quelques secondes.
Et c'est terminé, c'est fait. 81-75. Elles l'ont fait.
importance.
Laissez d'Antoine Dupont.
C'est
Denis Hippler, 27 de la France et champion olympique de rugby à 7.
Et tu retournes en pénombre.
C'est d'or, c'est d'or. Champion olympique, champion olympique. Le double historique pour l'équipe de France, messieurs dames. Sur ce service d'or, les bleus qui sautent, les bleus qui sont champions olympiques. Double médaillé d'or, Tokyo 2020. Et Paris, ici à la maison, l'or pour l'équipe de France de volley.
On verra, on peut rien promettre, hein, Johnny. Il y a deux mois, débutaient les Jeux Olympiques de Paris. Il y a un mois, l'équipe de France de volley, vous l'avez entendu, terminée en or. L'équipe de France de basket en argent. Cette semaine, ces deux sports ont fait parler d'eux. Pour le basket, c'était la grande reprise du championnat hier entre Saint-Quentin et Monaco. Victoire d'ailleurs surprise de Saint-Quentin. Pour le volley, c'est une énorme surprise avec le grand retour d'Hervin Ngapet en France, à Poitiers. Lui, la superstar du volley français, voire mondial. La musique qui fout les jetons. Et cette question, nos sports co peuvent-ils survivre après les Jeux Olympiques? C'est souvent une grande question qu'on se pose. Mais là, d'autant plus, c'était chez nous à Paris. Est-ce qu'ils vont avoir de la place? Vont-ils survivre? Oui ou non? Fred Weiss?
Non.
Marie Martineau?
Alors moi, je pense que le basket ne survivra pas. En revanche, le volley, oui, j'y crois.
Christophe Cessieux?
Ils vont survivre, mais vivoter.
Vivoter, très bien, il y a de la nuance de gris, j'ai l'impression. David Douillet.
Oui, mais je vois pas pourquoi il survivrait pas. Voilà, je suis assez circonspect par rapport à la question.
Ok, je sens que quelqu'un va critiquer ma question. Il a de la chance d'être loin de moi, en tout cas. On va débattre, évidemment. On vous attend au 32-16, chers amis, parce qu'on veut savoir si vous avez envie d'aller dans les salles, justement, de basket, de volley, pourquoi pas, avec le grand retour d'Hervin Ngapet. Pourquoi non, Fred? Ça m'étonne.
Alors, je vais rejoindre Marie. On m'a fait le coup, déjà. On m'a déjà fait le coup de le basket va exploser, ça va être fantastique. Après, si 2000, on nous avait promis de faire de la médiatisation, de nous montrer partout que le basket était le sport numéro 2, que le rugby c'était de la gnognotte. On est en 2024, je ne vois pas le basket. Vous savez où est passé le basket là?
En NBA peut-être.
Oui, en NBA, oui, non, mais je parle du basket français. Vous avez vu le basket français, vous savez où c'est diffusé le basket français?
C'est DAZN, non, c'est ça?
C'est DAZN, exactement. Okay. Mais je pense que le commun des mortels
ne sait
pas.
Donc tu peux avoir un abonnement.
Tu peux avoir un abonnement
basket,
tu peux voir tous les
foot.
Tu peux faire un abonnement
à combien? 60 euros par mois?
Ouais, je pense qu'il y a un truc spécial sur le basket, alors je ne me suis pas vraiment renseigné. Mais,
tu payes pas, toi?
Non, je ne regarde pas.
Tu payes pas pour regarder le basket?
Non, je ne me suis pas abonné encore, je ne sais pas. ça ne saurait tarder, j'imagine. Donc, tout ça pour dire qu'on nous a déjà fait le coup. En fait, on a une problématique avec le basket, c'est que nos stars ne jouent pas en France. Elles jouent en Europe, elles jouent en NBA, et c'est ringard, le basket français, pour la plupart des gens. Tu demandes à des jeunes, tu leur dis, est-ce que tu regardes le basket? Oui, je regarde. Il y a de la NBA. Non, je te parle de basket français. Est-ce que moi, je fais des camps de basket, je vois des jeunes tout le temps. Est-ce qu'il y a des maillots de basket français? Non, ça n'existe pas. Et juste un constat terrible, absolument terrible. Combien de joueurs de l'équipe de France masculine médaillés à Paris sont dans le championnat français? 2 sur 12. C'est-à-dire que les 10 autres, les grosses stars, les joueurs impressionnants, les Wembanyama, Koulibaly, les jeunes qui arrivent, sont en NBA. Le basket français n'existe pas. Alors, il n'existait pas avant. On remplissait les salles. On fait le taf. La ligue fait le taf. Les clubs font le taf. Sauf que, on n'a pas de fenêtre médiatique. Et à partir du moment où tu n'as pas de fenêtre médiatique, tu n'existes pas. Donc, je rejoins un peu Christophe. On va survivre. Comme on l'a fait jusque là. Parce qu'encore une fois, la ligue fait le taf. Parce que les clubs essayent de ramener les gens dans les salles. Nos salles sont pleines. Mais c'est tout. On va passer de 27 000 personnes à Lille pour voir des matchs de l'équipe de France à 7 000 qui vont regarder à la télé, peut-être, par miracle. Je suis pas sûr que ce soit vraiment vivre. C'est survivant.
Ok.
Bon plaidoyer.
Oui, non, mais ça sera évidemment, comme je le disais, vivoté, c'est-à-dire que ça va survivre. Il y aura toujours ces championnats, comme le disait Fred, championnat de hand, de volley, de basket. Ça va être un événement de voir Ngapet tous les week-ends sur les parquets du championnat de France de volley. C'est la vraie star de ce sport. Il est double champion olympique. C'est une icône du sport français. En plus, c'est un personnage qui peut parfois être clivant et donc qui va passionner les foules à Poitiers. Mais c'est ça le problème, c'est que c'est Poitiers, c'est une petite ville, et pour que la France entière se passionne pour les résultats de Poitiers, je pense qu'il va falloir quand même que de l'eau coule sous les ponts. C'est un peu le problème d'ailleurs de tous ces sports co. Ce sont souvent des villes, des ce qu'on appelait les sous-préfectures. Ça a été le cas en basket, ça a été le cas en rugby pendant très longtemps, avant que finalement, maintenant, les grandes villes prennent aussi le dessus. Aujourd'hui, c'est plus Béziers-Narbonne, c'est Montpellier,
c'est Toulouse.
Tu vois, ce sont des grandes villes. Et ça, je pense que il faut avoir un bassin de population plus important pour que ça intéresse plus de gens, pour drainer plus de monde dans les salles.
On a été comme ça au départ, parce qu'on voulait pas être en concurrence directe avec
et donc
c'était justement, on s'est rapproché des villes de taille moyenne pour éviter la concurrence directe avec le foot.
À force de refuser la concurrence, de toute façon, le foot, ils t'en mettent partout. Ils mettent des matchs de tous les côtés. Ils mettent des matchs de tous les côtés. Donc, de toute façon, tu peux plus lutter. Tu peux plus faire de tu peux essayer de faire la contre-programmation. Ça marche pas. Le rugby essaye de le faire avec Canal+. Ils mettent des matchs le samedi soir, le dimanche soir, en face des matchs de foot, et ça marche très bien. Ça marche très bien. Mais il faut avoir déjà une certaine aura avant d'y arriver. Donc, le problème aussi avait été signalé avec le hand, c'est-à-dire que le hand, on a eu des résultats pendant des années avec nos Français qui gagnaient tout. Bon, là, ils ont un peu été moins bons durant les Jeux Olympiques. Mais tout ça n'a pas suffi pour amener des énormes sponsors et des droits télé magnifiques. C'est 5 millions d'euros par an pour diffuser le hand. T'imagines, c'est pas avec ça.
C'est un rêve pour le basket, hein, 5 millions d'euros.
5 millions. Mais oui, bien sûr, ce sera un rêve pour le basket. Bah, alors, le basket, vous êtes passé complètement à côté. Et puis aujourd'hui, c'est vrai, quand tu veux voir du basket, bah, toutes les stars françaises, elles jouent à l'étranger. Elles jouent soit dans les grands clubs européens, soit aux États-Unis. Donc tu regardes le basket français, tu le regardes en regardant. Peut-être c'est comme une ligue de développement en quelque sorte. Tu regardes les espoirs.
Une ligue trop
moi, je la trouve un peu dure.
On est dans la réalité. Hein. Je compte
en
pas
fait,
un peu le basket. Il y a 15
sports co qui s'en tirent. Avec les honneurs, c'est le rugby. Et pourtant, le rugby à 15, il n'y a pas de Jeux Olympiques. Mais le rugby à 15, il a créé sa propre économie. C'est le seul championnat français où toutes les stars de ce sport sont présentes. Ils se sont mis en face du foot et ils ont pas repoussé en plus leur diffuseur historique. Et aujourd'hui, bah, ils prennent le checkpoint.
Oui, ça tombe bien que ça tombe bien.
Ils n'ont pas eu besoin des jeux.
David, vous trouve trop dur, David.
Je vous trouve trop dur. Moi, je vais partir à l'inverse. J'ai une question à vous poser. Et c'est une vraie question, hein, j'ai pas la réponse. Hein. Est-ce que dans le BHV, hein, les sports co-classiques, est-ce que vous considérez qu'il y a des athlètes, parce qu'on est dans le monde du professionnalisme, il y a des athlètes qui vivotent? Je parle de la première ligue, hein, les premières. Je connais un peu les salaires au niveau du basket, au niveau du hand, etc. Le volley, je sais pas. J'ai l'impression que c'est pas le cas.
Non, c'est clairement pas le cas.
J'ai l'impression que les athlètes. Alors, bien sûr que c'est sans aucune commune mesure avec ce qui peut se passer à l'étranger. Et c'est là où je vous trouve dur, parce que la comparaison, vous comparez. Des échelles qui sont pas comparables. Vous comparez la NBA dans un pays de plus de 300 millions d'habitants à la France où on est à peine 70 millions, 67 millions. Donc vous comparez des choses qui sont pas comparables avec des modèles économiques, des économies qui sont différentes, qui ne peuvent pas être appliquées dans notre pays. Donc si on revient à l'exactitude de ce que peuvent vivre des athlètes professionnels dans une ligue comme la nôtre, bah je trouve que on s'en sort pas si mal. On a des clubs, moi je vois le club de basket à Bourg, il y a du monde, les gens aiment bien venir.
Ah oui, ils font beaucoup de choses à Bourg-en-Bresse. Hein. Franchement, ils ont vraiment bougé les choses pour la fin d'expérience et tout ça. C'est vraiment un club très pertinent.
Mais tu vois, je vais te donner un autre exemple. Est très petite et malgré ça, ils arrivent à faire beaucoup de choses hyper intéressantes.
David, d'autres exemples après Marie.
Et ensuite, tu vois, je me souviens d'Orléans à l'époque quand ils étaient en première division en basket, c'était pareil. D'ailleurs, ils ont construit une grande salle pour ça, pour accueillir tout le monde. J'espère qu'ils reviendront en Betclic. Mais enfin, voilà, je trouve que vous êtes trop dur parce que globalement, nos sportco,
ils vivent bien.
Je peux dire que par rapport à d'autres sports,
clairement.
Les cités, mais quel est l'impact des jeux, David? Quel est l'impact des jeux? On va voter de la même manière. On vivait comme ça avant, on vivra comme ça après, et les jeux n'auront aucune influence. Mais je t'assure.
Je pense que ça va pas aussi vite que tu le voudrais. Ça, je suis d'accord.
Ça fait 24 ans que j'attends.
Je suis d'accord. Ouais, mais ça augmente petit à petit. Bah, je suis désolé, mais si tu compares les niveaux de salaire des joueurs d'aujourd'hui et ceux de ton époque, ça a déjà grandi en France.
Mais par exemple, parce que
oui, mais c'est oui, mais les gens qui Attendez, Marie n'a pas encore parlé sur le sujet. Vas-y, Marie.
Ouais, c'est une question où j'avais pas vraiment de réponse et j'attendais un peu d'avoir vos avis aussi, les copains. Je différenciais le basket et le volley parce que effectivement, j'ai l'impression qu'il y a un ogre qui s'appelle la NBA et qui en fait capitalise tout et prend tout, et donc j'avais du mal à comparer ça avec le volley. Où j'ai envie de croire que cet engouement des Français vis-à-vis de cette discipline, parce que l'épopée olympique était incroyable et que vraiment elle a raconté une belle histoire, pourrait continuer à justement remplir des salles. Je me demande si la question dit survivre, est-ce que survivre c'est pas déjà remplir des salles, et c'est déjà vraiment cool, tu vois, de remplir des salles sans même avoir encore une fenêtre médiatique. J'entends bien ce que tu racontes, Fred, mais je sais pas si je suis d'accord avec ça. Est-ce que vivre, c'est pas déjà pouvoir remplir des salles, avoir des clubs qui tournent avec des gamins qui sont venus s'inscrire dans les clubs à la rentrée
avant
là.
Les Jeux Olympiques, c'est ce que j'ai expliqué, c'est que les
Jeux Olympiques. Non, ça a donné un gros coup de.
Au basket, nos salles étaient pleines quasiment déjà.
Oui, d'accord.
Ça n'a rien changé.
Ok pour le basket, mais je pense qu'un sport comme le volley, ça lui fait du bien vraiment tous les 4 ans de pouvoir avoir sa belle fenêtre et puis montrer qu'il existe et voilà, et qu'on devienne un petit peu des fervents défenseurs de ces sports oubliés. Ça nous fait du bien aussi de nous rassembler derrière ce genre de sport-là. Donc, est-ce que ça, c'est survivre? Ouais, je crois que c'est déjà ça, survivre.
Alors, je vous propose ce débat ce matin parce qu'on a aussi appris cette semaine que les fans tricolores et le CNOSF voulaient pérenniser la réussite des carrés de supporters lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, avec ces ambianceurs qui avaient été choisis, ils étaient 925, pour justement mettre le feu dans les tribunes. Alors évidemment pour les compétitions internationales et pour nos équipes de France, mais aussi pourquoi pas pour nos clubs. Et justement, il y a Dylan qui est un membre de ce collectif Allez les Bleus, qui est avec nous au téléphone. Bonjour Dylan.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin dans les grandes gueules du sport, membre, je le disais, du collectif Allez les Bleus. Tu faisais partie de ces ambianceurs pour mettre le feu dans nos arènes durant les Jeux Olympiques. Je sais aussi que tu es un fan de basket parce que tu supportes l'équipe de Nanterre en Betclic Elite. Est-ce que tu y crois, ça, à la survie et à cet engouement qui continue pour nos clubs et pour nos différents sportco?
Alors pour les sportco, je pense que l'engouement peut prendre au niveau des équipes nationales. Je pense que la France, on est quand même un pays qui soutient assez massivement nos équipes nationales. Et les Jeux, je pense que ça a été un tournant dans la manière de supporter nos sélections. Justement, le CNOSF, ils veulent continuer de proposer des tribunes à tous les supporters d'Aller les Bleus pour justement continuer à supporter nos équipes nationales, à avoir cette petite ambiance, ce supplément d'âme. Après, au niveau des clubs, il y a chaque club a son ambiance, chaque club a ses groupes de supporters. Donc là, c'est plus au niveau de la ligue et des diffuseurs, des médias. Je pense que d'essayer de faire la promotion. Moi, je veux parler pour le basket. On a de superbes ambiances dans le basket, que ce soit à Nanterre, je parle pour moi là, et où je bosse. Il y a de superbes ambiances. Après, c'est totalement invisibilisé par les médias. Là, c'est vrai qu'on passe sur DAZN, donc c'est encore compliqué. Squeak, malgré un super travail d'éditorialisation, c'est compliqué. Donc, compliqué d'attirer les gens.
Mais est-ce que tu as senti, toi, par exemple, qui va aller, je crois, à Limoges demain pour le déplacement de Nanterre, qui fait le déplacement, est-ce que tu t'attends à voir quand même des familles différentes, quelque chose qui s'est passé pour... Alors évidemment, c'est pas une équipe nationale qui joue, mais ce sentiment d'appartenance et de continuer le fil de ce que l'on a vécu durant les Jeux, cette appartenance à un club, à un territoire.
Je l'espère. Après, l'appartenance à un club est totalement différent d'appartenance à la sélection nationale, surtout Limoges, où l'ancrage local de Limoges est quand même assez impressionnant. C'est un club historique. Donc déjà, eux, ils n'ont pas besoin de ce supplément d'âme, ils l'ont déjà. Et comme le disait Fred, les salles sont pleines au basket. Donc il n'y a pas un problème d'engouement. Les salles sont pleines. C'est vraiment plus une question médiatique. Par contre, nos équipes nationales, je me souviens très bien de l'équipe de France féminine de basket qui a joué un match à Reims cet été. La salle était à moitié vide. Et c'est là que nous, collectif Allez les Bleus, on peut intervenir, on peut essayer de transformer l'expérience spectateur en faisant en sorte que les gens ne soient pas spectateurs, mais justement supporters, et qu'ils ont encore envie de continuer à venir voir des matchs, que ce soit de sélection, et puis à posteriori des clubs. Après, il faut que les fédérations aussi, elles installent les équipes nationales en Île-de-France. Ça aide plus que d'aller à Reims, qui n'est pas une ville de basket, par exemple.
Mais c'est intéressant sur côté supporterisme. On n'a pas envie que le chapitre se referme après les JO, mais on veut garder cet élan et cet engouement. Ça vous y croyez?
Qu'on veuille le garder, moi j'y crois, bien sûr. Et effectivement, grâce à ce collectif-là, ça s'est vraiment très bien passé. Ils font vraiment beaucoup de taf. Mais il l'a dit lui-même, on a un vrai problème avec les équipes de France. Encore une fois, nous, au basket, nos équipes de France, pendant la saison, ont des fenêtres internationales. Sauf que là aussi, on n'a pas nos meilleurs joueurs. Donc, difficile de déplacer des gens pour ne pas voir des stars. J'espère que ça va continuer. Ces gens-là font un travail extraordinaire. Malheureusement, je ne sais pas si le basket a cette capacité.
Il y a un avantage avec le basket en France, c'est la résurrection de Paris.
Oui.
Et ça, je pense que c'est bien.
Il y a beaucoup de taf. Eux aussi, encore une fois,
ils font beaucoup de taf. Et c'est évidemment, c'est une grande ville qui peut attirer du monde, qui a un vrai cop de supporters. Ouais. Et ça peut faire du bien au basket français, je pense.
Dylan,
qu'ils les gardent en France.
Tu parlais du tarif, le problème du basket?
Un problème du basket pour les équipes nationales, oui, le tarif. Quand la double confrontation France-Serbie à Lyon cet été, c'était 170 euros, un tarif supporter, par exemple.
Ouais, Tu parlais de Reims tout à l'heure.
Le tarif des places pour les Jeux Olympiques était moins cher à Lille que pour un match amical. Ça pose problème.
Oui, mais il parlait de Reims tout à l'heure et justement, un des problèmes de Reims, c'est que le prix des places aussi. À un moment, il faut démocratiser ça en faisant des places un peu plus abordables aussi. C'est une évidence.
Bon, en tout cas, on remercie Dylan d'avoir été avec nous ce matin dans les GG parce que forcément, il fait beaucoup de bien à notre sport avec le collectif. Allez les Bleus, ils nous ont fait vibrer durant les Jeux Olympiques. Oui. Ils ont participé réellement à cette ambiance. Donc, merci Dylan et bonne chance pour la suite et bon match demain pour ton équipe Nanterre face à Limoges. 11h29, le débat caché dans quelques instants. Quelle surprise vous ai-je réservé? La réponse dans une poignée de secondes. Restez bien avec nous. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h33, de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Marie Martineau, David Douillet, Christophe Cessieux, Fred Weiss. Dans 10 minutes, c'est à vous de jouer les auditeurs. Le 32-16, vous n'êtes pas d'accord avec une GG sur un thème du jour. Vous venez lui dire en face, parole libre dans cette émission. N'hésitez pas, c'est votre émission. Et vous aussi, vous êtes des grandes gueules, n'hésitez pas. C'est donc le 32-16. Mais tout de suite, c'est l'heure du fameux débat caché.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Les GG ne savent rien et pourtant elles vont devoir débattre avec le cœur, avec la sensation.
J'ai peur.
Il faut pas. Votre guet-apens, votre débat caché, chers auditeurs, c'est ça.
Michael Matthews, lui, va peut-être mettre le feu à cette arrivée avec Pogacar dans sa roue. Michael Matthews est costaud à la lutte avec Van Aert qui s'impose ici devant Michael Matthews et Pogacar.
Bravo Marie Martineau.
Allez là, viens me chercher. Tu l'as bien joué.
C'est une première dans l'histoire du cyclisme. Cette semaine, Wout Van Aert, l'une des stars, grande star du cyclisme mondial, a signé un contrat à vie avec la formation Visma Lease a Bike. Le Belge de 30 ans, qui avait un contrat jusqu'en 2026, s'est donc finalement engagé jusqu'à la fin de sa carrière sportive. Une vidéo diffusée mercredi sur les réseaux sociaux, la mise en scène avait été soigneusement préparée. Le fond noir, la musique larmoyante, le stylo jaune et noir en main, couleur historique de la formation. Et Wout Van Aert, qui n'a plus qu'à signer son contrat. Et pourtant, à un moment donné, on se dit...
Oh, il va pas le faire.
Il va annoncer autre chose.
Lieve vrienden van Team Visma Lease a Bike. Met een hart vol nostalgie ben ik teruggekeerd naar de mooie.
Chers supporters de la Team Visma, c'est avec le cœur plein de nostalgie que je repense aux bons moments que nous avons partagés ensemble. Jusqu'à présent, notre parcours est rempli de souvenirs précieux. Nous avons construit quelque chose de beau, quelque chose qui ressemble à un amour qui durera pour toujours. Éternité, c'est un mot plein de promesses. Vous m'avez tellement donné et je ressens un profond sentiment de gratitude. C'est pourquoi j'ai décidé de rester avec vous pour toujours. Peut-être pas littéralement jusqu'à l'éternité, mais au moins jusqu'à la fin de ma carrière. Et ce moment est encore dans un futur lointain. Chers amis de la Team Visma, merci pour votre confiance. Je suis heureux que nous continuions ensemble avec un engagement qui n'a pas de date de fin. Ici, je me sens à la maison. Je veux rester ici pour toujours. L'amour véritable dure toujours.
C'est
clair,
c'est
beau. C'est beau. C'est beau. Impact unique, hein, selon le patron de l'écurie néerlandaise, d'une portée surtout symbolique et marketing. Hein. Pour rappel, c'est déjà arrivé, pas dans le cyclisme, hein, mais dans le foot. Hein. Andrés Iniesta avait signé un contrat à vie avec le FC Barcelone en 2017. Un an plus tard, bah, il partait au Japon. Alors, un contrat à vie.
Ouais.
Bah, est-ce que c'est magnifique, là, vous dites, mais vraiment, oh, quelle émotion. Est-ce que c'est pas un peu ridicule? Magnifique ou ridicule?
Ah, c'est dur.
C'est votre débat. Et c'est à vous de trancher. Fred Weiss.
C'est magnifique.
Christophe Cessieux.
Oh, c'est entre les deux, non. Je veux dire c'est ridicule parce que c'est.
Ouais. Ok, c'est plutôt ridicule. Ah, c'est sur l'émotion, hein, c'est à vous de réagir. Marie Martineau.
C'est manicule? Franchement, je sais pas. Non, mais là, en l'ayant entendu, c'est assez ridicule.
Ok, David Douillet.
Ouais, je trouve que ça a aucun sens.
Ça n'a aucun sens. Bah, tu sais quoi, tu commences le débat. Pourquoi ça n'a aucun sens, David Douillet?
Bah, parce que ça n'a aucun sens, parce que à la fois pour l'équipe comme pour l'athlète, via l'athlète a besoin de il a pas besoin d'une rente, tu vois. Le haut niveau, c'est par essence, je l'ai dit 10 fois sur nos débats, c'est de l'inconfort, voilà. Et quand tu te retrouves dans une situation qui peut être confortable, parce que quand t'as une équipe qui dit voilà, il a un contrat à vie, donc c'est tu peux te reposer, tu te mets dans un fauteuil plutôt confortable. C'est-à-dire quoi qu'il se passe, ça veut dire quoi qu'il se passe, il se passera rien puisque de toute façon t'as un contrat à vie. C'est l'antithèse du haut niveau, voilà, un contrat à vie. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens dans le monde du haut niveau.
Ok, c'est un bon argument.
Non, mais il a raison parce que tout le monde dans la société classique recherche un CDI, à la différence des sportifs de haut niveau qui eux ne veulent que des CDD pour pouvoir renégocier des contrats et monter un peu plus en gamme à chaque fois.
Et se mettre aussi
à part si t'es en toute fin de carrière et là tu te.
Il est bon de se mettre en danger, tu vois, en permanence. Tu te remets en question.
En plus, là, c'est un coup de com de la part d'une équipe que j'apprécie pas forcément, la Visma Liesebike et son patron Richard Plug.
Pourquoi
ceux, vous savez, qui dénoncent quand les équipes françaises boivent un coup.
Après les États-Unis.
Ils ont voulu faire du buzz avec ça. Après, oui, c'est sûr que ils ont Van Aert et ils ont raison de le signer le plus longtemps possible. Mais enfin, un contrat à vie, il s'arrêtera au moment où le mec va arrêter de faire du vélo. Hein. Voilà, je pense que c'est ça, un contrat à vie. Un contrat à vie de quoi?
C'est comme ça que le présente la Visma Liesebike. C'est pour ça que je vous propose ce débat. Évidemment, c'est pas un contrat. Il le dit d'ailleurs.
Que Plug lui ait proposé de prendre sa place quand il arrêtera le vélo et qu'il devienne le grand patron de Visma. Mais c'est du. Ouais.
Okay. Moi j'adore. Il adore. Vas-y, Fred Weiss, le romantique.
Je me répète, ces garçons et c'est cette dame ne sont pas romantiques. C'est magnifique. C'est-à-dire s'inscrire dans la durée. Mais en fait, je suis très surpris par David. J'ai l'impression que David, sa seule motivation, c'était ses contrats, signer le prochain contrat, etc. Non, ma motivation, c'était être le meilleur. Et si on m'avait dit de 18 ans à 35 ans, tu es sous contrat à Limoges à l'autoque, j'aurais signé sans aucun problème. Et c'est pas
pour autant. Mais quelle erreur de carrière. Pourquoi?
Parce que
mais t'as des rêves après, t'as la vie.
J'aurais été ravi, le confort, jouer dans la vie qu'on aime, jouer l'endroit qu'on aime, gagner l'argent qu'on a décrété dès le départ, ne pas toujours avoir des rêves de plus. Et si j'avais eu l'occasion d'être plan-plan, oui. J'aurais été plan-plan sans aucun problème parce que j'aurais été fier de la confiance qu'on me porte. Et j'ai pas besoin d'avoir à signer de nouveaux contrats pour essayer d'être bon. Je vais essayer d'être bon parce que c'est mon caractère, parce que c'est l'ego,
ou l'aventure.
Je réponds à ta question. Le sport professionnel français, c'est interdit pour un sportif de haut niveau de signer un CDI parce que conformément à un article du code du sport au nom de la protection des sportifs et de l'équité des compétitions, un athlète ne peut pas excéder 5 ans de contrat. Voilà.
On n'est pas dupes, on voit la grande démonstration marketing. En même temps, si tu te mets à la place de la Jumbo, qu'est-ce que tu peux faire quand t'as déjà un mec sur lequel t'as surfé parce qu'il est triple champion du monde de cyclocross, qu'il a gagné je ne sais combien de classiques en vélo sur route, que c'est un ogre en fait de toutes les compétitions et que t'arrives un peu au bout quand même du process, on va pas se mentir, enfin il a 30 balais et sa carrière est certainement plus derrière lui, même si je lui souhaite et on le verra encore gagner des courses, mais Donc qu'est-ce que tu fais pour faire parler de lui, pour faire en sorte que dans les grandes gueules on fasse un débat, pour exister médiatiquement, tu vois? Et ben c'est une plutôt rigolote idée, bonne idée de mettre en scène ce truc là. Et voilà, toi, ouais, le premier, ça t'a fait rigoler.
Un peu penser, dans les clubs de basket quand on retire le numéro ou le maillot d'un,
c'est magnifique,
d'un joueur.
Ouais,
c'est magnifique. Ouais.
Non, mais c'est bien parce que ça fait partie. Ça, je veux dire, c'est il nous faut des légendes, il nous faut des repères. Donc afficher ces légendes sur un mur dans une salle, bah, ça a un vrai sens. Le truc, c'est qu'il a 30 ans, Wout Van Aert. Il a signé jusqu'à ses 32 ans. Et une carrière de, je parle sous contrôle de Christophe, mais une carrière d'un cycliste.
Oui, en cela, c'est ridicule. Enfin, c'est ça 30, pas duré,
36 ans,
4-5 ans, quoi.
Non, mais il aurait signé ça à 20 piges.
Mais voilà, mais c'est différent.
Ok, il y a un truc, mais tu vois, il y a un événement.
Aussi. C'est le romantisme de l'effet d'annonce. C'est ça votre problème. C'est que c'est le romantisme de l'effet d'annonce. Parce qu'en réalité, effectivement, il signe 4 ans.
Mais c'est quoi le romantisme?
Mais c'est beau de dire, en gros, ça fait partie de ma vie, je me sens bien, je suis comme à la maison. Et voilà,
c'est bien.
C'est
bien
de faire une bonne affaire. Propose ce même genre de contrat à Pogacar qui fête aujourd'hui ses 25 ans. Tu peux faire une bonne affaire.
Là, je suis d'accord.
Hein. Surtout, éviter que son salaire enfle à chaque fois qu'il va gagner le Tour de France.
Non, mais sportif et même une écurie, un club, comme vous voulez, on peut dépasser le cadre du vélo. Ils ont besoin, et là je rejoins ce que dit David, pas forcément que de l'inconfort, mais c'est vrai que ça peut aider à la performance d'être un peu à chaque fois sous pression et en danger. Mais parfois, il y a des orientations de
exactement,
vie.
Exactement, c'est plutôt ça.
Humaines. Un sportif, il n'a pas vocation forcément. Et puis, je veux dire, Totti, il était très content de rester à la Roma toute sa vie. Et tant mieux, c'était ses valeurs. Mais il n'avait pas besoin de signer un contrat à vie pour ça. Surtout qu'un contrat à vie, j'imagine qu'il y a des clauses. Et qu'à un moment donné, s'il est vraiment nul, ils vont s'en séparer.
Non, puis le romantisme,
Il aurait pris un chèque pour la séparation d'une part. Et ensuite, tu vois, ton exemple est hyper bien choisi. C'est-à-dire qu'en gros, un mec qui a fait toute sa carrière dans un club, ça lui change quoi de signer toute sa vie? Au contraire, tu parles de stabilité d'un sportif.
Exactement, c'est pour ça qu'il gagne mieux, sa
fidélité est récompensée aussi. Il le monétise.
Oui, mais les sportifs
sport de haut niveau
sont pas égaux. C'est-à-dire qu'en gros, on parle des sportifs qui ont besoin de se challenger tout le temps. Donc il y a des gens qui ont besoin d'avoir une structure, d'être dans un club confortable et de savoir qu'ils sont tranquilles pour performer. Tout le monde ne performe pas sur la même manière. Je trouve que partir du postulat que tout le monde performe grâce à la même manière, c'est complètement ridicule. Tout le monde est différent. Si on lui a proposé ça, il a raison. Après, si effectivement, si quelqu'un arrive à proposer à Pogacar le même contrat.
Mais il n'y avait pas d'autre option. Je veux dire, Wout Van Aert, il n'allait pas aller signer, je ne sais pas, chez Lefebvre. Enfin, c'est une évidence que de toute façon, c'était écrit comme ça. C'est une matérialisation sur laquelle on surfe d'un truc qui, de toute façon, était existant.
C'est un effet d'annonce qui est très, très sympa, c'est je trouve. Mais moi, j'aime beaucoup.
Ok, c'est plutôt un coup de com', donc, si j'ai bien compris, pour les copains. Et de façon,
c'est la meilleure façon de plus avancer dans sa carrière, voilà.
Pour toi, mais encore une fois, tous les sportifs ne sont pas sur le même style que toi.
Ouais, mais tous les sportifs ne sont pas double champion olympique. C'est aussi pour ça, David Douillet, qu'il a été champion. Et voilà. T'es double champion olympique, toi?
Non.
T'es vice-champion olympique?
Oui.
Bravo.
Moi, j'aimerais bien faire un débat. Un débat, mais qu'on n'aurait jamais la réponse.
Donnez-lui sa cachette.
David Douillet face à Teddy Riner. Qui l'emporterait aujourd'hui?
Ah oui, ça c'est
un tous les deux, au sommet de leur forme.
Ça c'est un très bon débat.
Teddy a la réponse et moi j'ai la réponse.
Eh oui.
Et c'est la même?
Bah non.
On dirait la même parce qu'on est des compétiteurs, nous.
David il dirait c'est normal. Le pli, je le tords, j'en mange 4 petits
dés. Si t'es pas compétiteur, voilà.
Le duel des titans,
c'est fini.
Ça aurait été magnifique.
Heureusement qu'ils sont pas arrivés à la même.
Mais non, mais ils auraient jamais pu le faire parce que t'as un seul mec
avec une place pour les JO,
donc ça aurait été ridicule finalement.
On peut avoir des médailles.
Très bon débat caché, mon JC, en tout cas.
Merci. J'avais prévu autre chose, mais je trouvais que ton idée était bonne.
Ça a changé, merci.
T'aimais pas mon idée. Ouais, sur la crise de la soixantaine, non,
je te laisse ça. Tranquille. 11h45, on se retrouve dans quelques instants avec vous, les auditeurs. Vous composez le 32-16, ça va saigner. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h48, encore quelques minutes de plaisir en votre compagnie avec David Douillet, Marie Martineau, Christophe Cessieux, Fred Weiss. À partir de midi, restez bien avec nous. Les paris RMC, notamment autour de Reims, Paris Saint-Germain. On vous donnera les meilleures cotes avec toute la Dream Team. Mais tout de suite, c'est à vous de jouer, les auditeurs.
RMC, les grandes gueules du sport et vous.
Alexandre nous appelle au 32-16. Bonjour Alexandre.
Bonjour Jean-Christophe, bonjour les grandes gueules.
Bon, tu veux affronter qui ce matin?
Salut Alex.
Frédéric.
Fred Weiss, sur quel sujet?
Sur Rabiot.
Sur Rabiot. Voilà. Un sportif peut-il faire ce qu'il veut de sa carrière? C'est notre débat. Pour toi, c'était Non, mon cher Fred, on va réécouter ce que tu nous disais et après tu vas prendre Alexandre plein fer.
Les mecs embrassent le blason de leur équipe. C'est-à-dire qu'en gros, ils arrivent à Madrid, admettons. Ils embrassent le blason et ils vont au Barça, ils embrassent le blason aussi. C'est quoi ça? À un moment, il faut quand même se respecter, respecter les institutions et ne pas faire ce genre de choses. C'est pour ça que je fais vraiment distinguo entre ceux qui ont joué et qui n'ont pas fait d'exubérance et ceux qui font des exubérances disant j'aime ce club et donc j'aime son histoire, j'aime son passif avec la rivalité qu'il y a, et finalement tu changes de club et dis j'aime ce club, j'aime son histoire, j'aime son passif et je ne supporte pas.
Ok, Alexandre, t'écoute.
Alors, j'ai été le premier à m'indigner quand le PSG se courbait devant ses starlettes, mais dans le cas d'Adrien Rabiot, il parle de respect envers l'institution, mais je suis pas sûr que l'institution elle-même ait été respectueuse d'Adrien Rabiot jusqu'au bout. Tout sous prétexte qu'il voulait pas prolonger, qu'il menaçait de partir libre, ils l'ont obligé à faire un an de banquette, un peu à la Qatari, on va dire ça, un management à la Qatari. Et puis, il parle de la rivalité. Déjà, entre son départ de Paris, son arrivée à Marseille, il s'est passé 5 années où il est allé dans un club neutre de ce côté-là, la Juventus. Et ensuite, déjà, il y a eu ça. Et puis...
Il a oublié, il a perdu le fil. Il a perdu le fil, Alexandre. Déjà, réponds à ça. Et Alexandre, après,
je viens de me réentendre et je viens de dire que je faisais le distinguo. J'ai jamais considéré que Rabiot avait embrassé son blason. Donc, je fais le distinguo entre.
Ça y est, je me rappelle de ce que j'avais.
Allez, vas-y, Alex.
Okay, bah, vas-y.
Voilà. Déjà, on parle de la rivalité PSG-OM. Telle qu'elle existe, elle remonte à 1991. Mais on va dire, genre, elle a été instaurée par Denis Otapi en 1991, genre le dimanche, et dès le lundi, t'avais des joueurs qui passaient de l'un à l'autre. Ça a toujours existé. On n'a pas découvert ça avec Adrien Rabiot.
D'accord, mais c'est exactement ce que je viens de dire, Alexandre. Alexandre, je fais le distinguo, et on fait pas toujours ce qu'on veut. Et mon argument par rapport à Rabiot, c'était plutôt de dire Rabiot a joué dans une équipe, et maintenant, il faut assumer ce choix. Parce que quand il signe à Marseille, quand même, il dit que c'est le choix du cœur, qu'il avait d'autres propositions, et qu'il a choisi l'OM. C'est un peu difficile pour les supporters parisiens d'encaisser ça. Et je disais aussi que tu fais 3 mauvais matchs à l'OM, et les mecs se rappelleront que t'as été parisien, et ils vont tomber dessus, ils vont tirer dessus. Et c'est dans ce sens-là que je disais. Mais encore une fois, je le mettais pas dans le même panier que ceux qui embrassent le blason, parce qu'effectivement, à la fin de son aventure parisienne, ça a été beaucoup plus compliqué pour lui.
Alexandre, tu veux encore te frotter à lui ou ça va ?
Non, ça va. Oui, je veux bien me frotter à lui encore un peu. C'est pour dire, ne crois pas que les supporters marseillais, malgré qu'ils lui ont déroulé le tapis rouge, qu'ils étaient contents et tout, ils n'aient pas le sens de la rivalité, parce que l'affaire Pernod-Ricard nous a démontré qu'ils l'avaient. Et ensuite, les Marseillais sont versatiles envers tout le monde, pas juste envers les anciens Parisiens. Donc ça, à mon avis, ce sera juste un prétexte. Dès que l'info est sortie, on a ressorti les cadavres du placard, mais ça vaut pas grand-chose.
Oui, donc, mais ça peut durer.
Lui en touche une sans faire bouger l'autre. Alors s'il est hué au Parc des Princes, il s'en balance.
Merci Alexandre d'avoir été avec nous au 32-16.
Merci à vous de m'avoir pris. Et juste pour dire, par rapport au fait que j'avais perdu le fil.
Oui.
Oui.
Oui, j'ai perdu le fil. Oui, ça peut être un peu une séquence journal moyennable. Mais en même temps, quand on entend les saucisses que certains disent dans cette station, ça va.
Oh, il y en a pas beaucoup. En tout cas, le week-end, il y en a peu. Hein. Merci Alexandre d'avoir été avec nous. Stéphane est également là au 32-7. Bonjour Stéphane.
Stéphane, bonjour Jean-Christophe, les grandes gueules, bonjour. David Douillet, je suis impressionné de savoir qu'il n'est pas trop loin du micro, franchement ça me touche.
Mais oui.
Je fais une petite parenthèse vite fait pour revenir sur les JO avec vos animateurs, ça a été pendant 3 semaines, c'était génial. Moi je commençais à pleurer avec Céline Dion, je terminais avec le volet, j'ai l'impression que je vais reprendre le boulot au Prozac, quoi. Mais non, c'est que du bonheur. Donc voilà Jean-Christophe, tu peux envoyer...
Merci pour cette dédicace. Ah, tu veux te frotter à Christophe Cessieux. C'est par rapport à sa crise de la soixantaine.
J'avais commencé ma sieste, moi, là.
On a presque le même âge, donc tranquillou. Je vais quand même en mettre une petite.
Ok, crise de la soixantaine, c'était évidemment Christophe Cessieux remonté contre World Rugby, qui faisait l'éloge d'Etsebest, le Sud-Africain, et de son action litigieuse lors de France-Afrique du Sud.
Nous sommes peut-être mauvais joueurs, nous avons peut-être le seum comme les Belges. Oui, mais Zébet, ce jour-là, j'en suis certain, aurait dû prendre carton jaune et essayer de pénalité pour l'équipe de France. Il n'y aurait pas à tortiller.
Ah ouais, il était remonté, c'était à 10h45, allez réécouter ça en podcast. Stéphane, il est à toi.
Ouais, alors moi, c'est pas actuel, ce que M. Cessieux dit. Par contre, c'est l'angle qui est mauvais, quoi. Ça fait quand même depuis 2007 qu'on a quelques World Rugby à la valise à concombre avec nous, quoi. Donc, entre la finale d'Auckland et puis on termine la boucle à Paris, on s'est complètement enfumé, quoi. Le geste, on peut dire en avant ou derrière. Enfin bon, moi, je suis plus footeux que rugby, mais j'adore rugby quand même, même si j'en perçois pas toutes les règles comme vous. Mais toujours est-il que c'est un geste d'anti-jeu, quoi. C'est ça. On n'est pas dans l'esprit sportif, quoi. Donc, que ça soit pas signalé, ça m'énerve. Alors, en plus, derrière, World Rugby qui nous met une affiche avec ce geste-là, voilà, franchement, c'est de la provocation, quoi. Ça les amuse de nous la mettre profond à chaque fois. Donc, je vous dis, ils ont la valise à concombre. Et la Coupe du Monde, on avait la meilleure équipe du monde. À Paris, on ne l'a pas gagnée. Mais il faut qu'on l'arrête, quoi. Qu'on reste à 7, quoi. Voilà.
Ok, sinon, on ne gagnera jamais la Coupe du Monde. Bon, t'étais un petit peu dans. Impossible. T'as bientôt 60 ans, t'étais dans la crise de la 60 ans.
Ouais, c'est un truc pour les vieux, ça. Les arbitres. C'est bien, mais ça.
En plus, c'est le dernier anniversaire qu'il faut souhaiter, hein, parce qu'après, derrière, ça devient glauque.
Ah ouais, non, mais après, je souhaite plus, j'efface ma date de naissance de partout.
Oh, connaissant l'animal, Christophe Cessieu, à mon avis, on fêtera tranquillement ses 70 ans dans les grandes gueules du sport. C'est possible.
Grand coup de rosé.
Je nous le souhaite.
Merci Stéphane d'avoir été avec nous, et à bientôt, et merci pour tes félicitations.
Merci Stéphane.
Et merci de ta fidélité.
C'était mérité.
À bientôt sur RMC. Allez, 11h55, c'est la fin des grandes gueules du sport. Merci Marie, merci Christophe. Je vous retrouve demain. Vous êtes en forme pour demain?
Ouais. Bah jusque là, oui.
Déjà, moi cet après-midi, hein, parce que toi, tu vas aller pouvoir jouer au golf et moi, ma journée n'est pas terminée.
Tu penses qu'en tant que père de famille, je peux jouer au golf le week-end?
Ouais, un peu quand même.
C'est possible aussi. Bon, on vous retrouve demain à partir de 9h dans les grandes gueules du sport. Il y aura Sarah Pitkowski et Julien Bennett. Merci David Douillet. Merci Fred Weiss.
Merci
les copains. On vous retrouve très vite, évidemment. 9h, hein. 9h midi, les grandes gueules du sport. Restez bien avec nous, les Paris RMC, dans quelques instants, avec toute la Dream Team autour de cette journée de Ligue 1 et notamment ce soir. Reims Paris Saint-Germain, à tout de suite.